Europe 1. On continue à vous informer sur Europe 1. Alors comme chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Bonjour professeur Patrick Berche.
Bonjour Patrick Cohen.
Microbiologiste, vous avez dirigé le service bactériologie de l'hôpital Necker Enfant Malade. Vous avez été le doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes et dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Les scientifiques du monde entier tentent aujourd'hui de percer les mystères de ce virus inconnu il y a moins de 3 mois et de cette maladie nouvelle, le Covid-19. Qu'avez-vous appris de nouveau sur ce fléau ces dernières semaines ?
Bien écoutez, on progresse beaucoup. D'une part, on sait que ce virus provient de la chauve-souris, qu'il est probablement passé, même très certainement passé par le pangolin, et qu'il est apparu en Chine vers le 17 novembre probablement, et son identification a été faite à la mi-janvier par les Chinois avec la séquence. Donc on connaît maintenant son origine. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ceci nous permet éventuellement de faire des tests diagnostiques. C'est pour ça qu'on a cette PCR et ces tests vont s'améliorer encore. Probablement des tests plus rapides vont apparaître avec un retour non pas en 3 heures mais en une demi-heure. Et puis surtout, on attend les tests sérologiques, c'est-à-dire la production dans le sérum d'anticorps qui permettront de savoir le degré d'immunisation de la population. Un virus nouveau se propage dans une population habituellement en touchant, quand il est très contagieux comme celui-ci, 40 à 70% de la population. En France, 40%, ça fait environ 30 millions de personnes. Donc, cela va déclencher une immunité de masse qui va permettre d'atténuer les vagues suivantes. Plus la population est immunisée, moins elle permet la propagation du virus. Donc on sait beaucoup de choses actuellement. Alors sur le plan thérapeutique, il y a l'hydroxychloroquine est discutée. Bon, pour le moment, les tests sont pas suffisants pour dire que c'est actif. Et puis, on teste aussi à l'échelon européen et à l'échelon mondial toute une série de molécules, en particulier des anti-HIV, qui anti-protéases, qui pourraient stopper la croissance du virus. Mais on ne sait pas encore s'ils seront actifs. Et puis, il y a des essais aussi de sérothérapie, c'est-à-dire utiliser le sérum de patients ou des anticorps monoclonaux pour pouvoir prévenir la réplication virale. Voilà, enfin, on sait beaucoup de choses. Puis il y a aussi l'immunothérapie avec le BCG qui est proposé par les Hollandais pour une immunité non spécifique pour pouvoir rendre plus résistants en particulier les personnels soignants.
En dopant notre système immunitaire, oui, avec le vieux vaccin par le BCG. Effectivement, c'est une étude qui vient d'être lancée. Mais, professeur, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore, et notamment sur la maladie. Pourquoi elle s'attaque davantage aux hommes qu'aux femmes? Pourquoi les enfants ne sont pas touchés? Est-ce qu'on a une immunité après avoir été une première fois infecté? Tout ça, c'est des choses qu'on ignore encore, non?
On sait quand même alors c'est vrai qu'il y a une prédominance masculine. 57% en France de cas sont chez les hommes et 43% chez les femmes. Cela peut être expliqué par les facteurs de risque des hommes. Les hommes sont plus souvent fumeurs, etc. Donc on peut penser qu'il y ait une plus grande sensibilité des hommes. D'ailleurs, la longévité masculine est plus faible. Elle est de 79 ans environ en France contre 85 ans pour les femmes. Donc ça, c'est un premier point. Alors pour les enfants, c'est une énigme. On ne sait pas pourquoi les enfants ne sont pas malades. En Chine, sur leurs 80 000 cas, ils avaient 1% d'enfants qui ont été hospitalisés. 3 ont été, ce qui fait 1700 enfants environ, 3 ont été en réanimation. Et ils ont guéri. En France, on n'a pratiquement pas de cas chez l'enfant. Il y a des cas, il y a eu ce cas chez cette malheureuse jeune fille là, qui fait partie probablement de ces cas très rares que l'on voit tous les ans de grippe mortelle. On voit quelques cas de grippe mortelle chez des jeunes, alors qu'ils n'ont aucun facteur de risque. Donc, ça reste quand même tout à fait exceptionnel. Et ce virus atteint surtout des personnes à partir de 40 ans et il est mortel avec une mortalité de 15% chez les personnes de plus de 70 ans. Donc, on sait quand même pas mal de choses.
On sait pas mal de choses. Un virus infectieux, très infectieux et contagieux à la fois, c'est cette combinaison qui le rend redoutable. Est-ce que ça le rapproche d'autres épidémies connues, d'autres virus que vous avez eu à observer ?
Ah ben écoutez, ça rapproche évidemment de la grippe, mais surtout de la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'était un virus qui se répandait dans une population sans aucune immunité, ce qui est le cas de ce virus, qui a, sur une population mondiale à l'époque de 1,8 milliard, qui a touché environ 50%, peut-être même plus, de la population, et qui a fait quand même beaucoup de morts. Il a fait 50 millions de morts, mais on n'avait pas les moyens thérapeutiques actuels, en particulier on n'avait pas de réanimation, et on n'avait pas d'antibiotiques, ce qui explique cette forte mortalité. En temps de guerre en plus, avec tout ce que ça signifie.
Patrick Berge, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Avec le professeur de microbiologie Patrick Berche, ancien doyen de la faculté de médecine Paris Descartes. Professeur, nous vivons une crise majeure totalement inattendue, même si des alertes ont été lancées ces dernières années sur ce risque qui pourrait nous arriver, sur cette catastrophe. Avec la question qui n'a pas fini d'être posée, aurions-nous pu savoir, aurions-nous dû nous préparer plus tôt ? Alors je la pose à quelqu'un qui a passé sa vie, c'est votre cas, à étudier les bactéries, les virus et les épidémies. Vous, quand avez-vous vu que cette épidémie pourrait tourner à la pandémie mondiale et risquerait de nous submerger ? Quel événement, quelles données vous ont laissé penser que ça pourrait nous tomber dessus ?
Les données de janvier étaient assez inquiétantes en Chine, mais on n'était quand même pas prêts pour aborder une pandémie. Alors vous vous souvenez qu'en 2009, Roselyne Bachelot, qui avait été vraiment très critiquée, avait constitué des stocks très importants, et avant elle, pour la grippe, la menace de grippe aviaire, et ses dépenses avaient été très fortement critiquées, c'est moins qu'on puisse dire, par énormément de gens. Et donc vous voyez, alors à partir de 2010, on semble avoir baissé la garde, plus le fait que pour des raisons économiques, on fasse des économies sur l'hôpital, ça explique en partie, on n'était pas préparé pour une pandémie de cette ampleur qui était assez imprévisible. Mais on sait quand même, depuis 1970, on a isolé à peu près plusieurs centaines de micro-organismes nouveaux, donc on est à la merci de micro-organismes nouveaux, et une fois de temps en temps, heureusement rarement, l'un peut donner une épidémie ou une pandémie. Et là, on arrive à une pandémie proche de celle de la grippe espagnole. Ouais.
Voilà, donc c'était imprévisible, mais on n'était pas préparé à cette éventualité. Mais voilà. Je repose ma question là sur cet épisode-là. Qu'est-ce qui vous a fait dire, qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pourrait nous arriver et dans une situation de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec des populations contraintes entières contraintes au confinement pour éviter cette maladie.
Rien ne pouvait empêcher sa dissémination à partir du foyer chinois. Quand on voit ce qui s'est passé à Wuhan, c'est une ville de 15 millions d'habitants. Je crois qu'il y a 5 ou 6 millions d'habitants qui sont partis avant tout confinement. Donc ça a été disséminé tout en Chine. Et nous avons ensuite de très fortes communications à l'époque aéroportées avec la Chine, entre l'Europe et la Chine, et la Chine et les États-Unis. Donc l'Afrique a été momentanément préservée parce qu'elle a beaucoup moins de communication aéroportée. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça se dissémine, mais on n'avait pas... Alors il y avait une mortalité qui était annoncée par les Chinois, qui à mon avis a été certainement sous-estimée. Oui. On a beaucoup de mal à croire qu'un pays, même avec ses mesures de confinement et si peu de morts, puisqu'ils ont eu que 5000 morts déclarées, et probablement d'après certains témoignages, il y a eu beaucoup plus de morts, mais on a minimisé ces chiffres. Donc on a une pandémie qui s'est répandue très rapidement, et il faut craignent beaucoup ce qui va se passer en Afrique et ce qui va se passer en Inde. L'Afrique, c'est 1,3 ou 4 milliards, et l'Inde, c'est pareil. Donc, on aura potentiellement, on a des bombes dans ces deux pays qui vont payer un très lourd tribut. Dans le cas de la grippe espagnole, d'ailleurs, les pays qui ont eu le plus de morts, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique. Il y a eu beaucoup de morts, en particulier en Sierra Leone, par exemple. Donc, l'Afrique va payer un très lourd tribut parce qu'ils n'ont pas de mesure de confinement. Alors, je voulais revenir sur le confinement. Le confinement, c'est extrêmement important parce que il y a beaucoup de porteurs sains. Et si vous voulez, quand je disais 40% de la population, mettons 30 millions de personnes, je voudrais dire que de très nombreuses personnes vont être contaminées, vont être en bonne santé, vont être porteurs sains et vont propager le virus, mais certaines personnes vont faire une maladie très sournoise, puisqu'au début elle peut être assez bénigne, on tousse un petit peu, et vers le 8e jour ça peut s'aggraver avec une détresse respiratoire. C'est là où il faut absolument aller appeler le 15 et aller à l'hôpital pour se faire oxygéner, puis dans les cas les plus graves aller en réanimation. Donc c'est une situation très sérieuse, ça va continuer à augmenter probablement dans les 15 jours qui viennent, en sachant qu'il faut vraiment interpréter les chiffres. Il y a le nombre de décès. Le nombre de décès, c'est le nombre de personnes qui meurent à l'hôpital, c'est aussi le nombre de personnes qui meurent en EHPAD. On n'a pas encore les chiffres, on va les avoir. Et c'est aussi le nombre de décès qui sont répertoriés par l'INSEE. C'est ce qu'on la surmortalité. Et donc, on a déjà une surmortalité, évidemment, décelée par l'INSEE. Et le nombre de contaminés va augmenter beaucoup parce qu'on augmente le nombre de tests. Donc, il faut savoir que en France, on n'a pas fait des tests sur tout le monde. Et les cas déclarés, c'est uniquement les cas déclarés sur la base des tests. Et donc, ce nombre va augmenter considérablement. Mais on sait déjà qu'il est extrêmement élevé, probablement. La population est en train de s'immuniser. Et les efforts actuels, c'est pour essayer de lisser la pente, pour essayer de diminuer la pente et ainsi permettre aux hôpitaux d'absorber tous les patients très graves qui iront en réanimation. Et donc, il faut suivre à la lettre les mesures de confinement. 15 jours, d'accord, en plus, mais ce sera peut-être encore plus. On peut espérer, la vague chinoise a duré environ 10 semaines, avec un pic à 6 semaines. Donc on peut espérer que le pic, si on considère qu'en France, ça a commencé vers le... les premiers cas, c'était c'était fin février, je crois, oui. En France.
Il me semble enfin, il y a eu un premier touriste chinois qui est mort plus tôt, mais effectivement, fin février, oui.
Et à partir du 17 mars, on a fait le confinement. Donc, on n'aura pas les résultats tout de suite du confinement, mais on va voir probablement la courbe, pas tout de suite, mais dans quelques temps, on va voir la courbe baisser. Et on peut espérer que fin avril ou vers le 15 mai, on puisse avoir une baisse sensible. Mais c'est pas gagné, parce que si vous regardez les chiffres de Corée du Sud, qui ont des précautions, qui étaient prêts à une pandémie parce qu'ils avaient l'habitude, etc., eh bien, on voit que leur courbe, elle est assez plate actuellement, et oui. C'est arrêté, mais ça reste plate, ça continue, et donc, il est difficile, il faut être très humble devant cette pandémie, il est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais on pense quand même, raisonnablement, d'après l'expérience historique, que ça va diminuer et qu'on aura une vague. Et après, on peut avoir des résurgences, parce que la population n'aura pas été évidemment totalement immunisée. Si on a que 40%, ben, il y a 60% de personnes qui restent sensibles. Si le virus continue à circuler, il y aura une deuxième vague, probablement, et peut-être une troisième. Dans la grippe espagnole, il y a eu 3 vagues.
Patrick Berge, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les microbes et les bactéries, mais aussi sur l'histoire de la médecine. Alors, je recommande particulièrement votre histoire des pandémies, parue chez Odile Jacob, intitulée aussi « Faut-il avoir encore peur de la grippe ?» C'est très éclairant et ça raconte notamment l'épisode de grippe espagnole de 18-19 dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est disponible en e-book. Vous avez aussi publié « Gloire et imposture de la médecine ». Et je voulais vous demander simplement, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Que les gloires et les impostures se dévoilent après coup?
Oui, gloire et imposture de la médecine, c'est des histoires extraordinaires d'imposture d'une part et de merveilleuses découvertes. Par exemple, je donnerai qu'une magnifique découverte, c'est celle de l'insuline par un chirurgien orthopédiste qui, en quelques mois, a pu isoler cette hormone et qui a eu le prix Nobel au bout d'un an, en 1922 ou 1923, Banting, ça, il s'appelait, et qui a ainsi transformé la vie de tous ces enfants qui mouraient à 14-15 ans de diabète de type 1. Bon, ça, c'est une magnifique découverte. Il y a aussi la pénicilline, qui est une magnifique découverte, qui a été faite par Fleming. Donc, il y a des belles histoires et puis des histoires moins bien.
Des histoires moins bien. Mais donc, le génie incompris qui a une intuition géniale dans son laboratoire contre l'opinion dominante des autres scientifiques, ça existe ? Il y a beaucoup d'exemples ?
Écoutez, il faut... l'hydroxychloroquine, moi, ma position est simple. Cette molécule, elle est active in vitro sur la réplication des virus parce qu'elle se concentre dans les cellules et qu'elle casse le cycle viral. Ça, c'est une première chose. Donc, ce qui a été publié, il y a un papier chinois sur une centaine de patients et le papier de Didier Raoult ne sont pas convaincants pour le moment. En tous les cas, il n'y a pas assez de la méthodologie, on peut discuter, mais pourquoi ne pas essayer? Effectivement, le public ne comprendrait pas qu'on interdise l'utilisation de cette molécule. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de d'échecs sur Ebola, sur des
chikungunya,
l'anivaquine in vivo. Donc, il faut être prudent, le donner de façon compassionnelle. Alors, le conseil scientifique préconise pour de l'utiliser plutôt dans les cas très graves, mais probablement, ce serait plus actif. Si c'était actif, ça marcherait plutôt au début de la maladie, parce que c'est un virus qui se multiplie extrêmement vite, qui est cytolytique et qui a une charge virale très importante, ce qui explique en partie sa contagiosité, puisque les gens qui sont contaminés produisent beaucoup de virus et contaminent leur environnement qui reste pollué pendant quelques heures, voire un ou deux jours. Donc, il faut absolument se laver les mains. Le caractère manuporté de cette infection est très très important et il faut se laver les mains sans arrêt, car en mettant les mains à la bouche, une fois ou deux par minute, à la bouche, au nez ou aux yeux, on peut se contaminer. Et donc, il faut des mesures d'hygiène, des mesures de confinement qui doivent être drastiques.
Merci beaucoup, professeur Patrick Berche, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci à vous.